VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 15h à Tananarive. Bienvenue à notre journal. En Afrique, les Malgaches votent aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle. Trois anciens chefs de l'État font figure de favoris à Madagascar, un pays à l'histoire politique mouvementée. Les bureaux de vote ont ouvert peu après 3 heures temps universel à Antananarive et il y a des files d'attente un peu partout dans le pays. À la mi-journée, le taux de participation était de 40% dans la capitale et de 68% à Toliara dans le sud-ouest, qui est la troisième ville du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, qui précise qu'aucun incident n'a été pour l'instant signalé dans le pays. Les bureaux de vote doivent fermer à 17h, soit 14h, temps universel. Les premiers résultats provisoires et très partiels sont attendus d'ici vendredi matin, mais la proclamation des résultats officiels est prévue le 28 novembre. À Madagascar, un pays où 91% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, un électeur explique comment pour lui, le futur gouvernement qui doit diriger l'île après les élections devrait améliorer l'économie nationale. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Quel que soit le vainqueur de la prochaine présidentielle malgache, Joseph Rodolphe Solo souhaite qu'il crée des emplois dans un pays déchiré par la pauvreté malgré ses ressources. Solo n'a que 20 ans. En journée, il effectue de petits travaux dans le secteur de la construction et travaille comme cuisinier le soir afin de pouvoir joindre les deux bouts.
Je viens ici tout le matin et le soir je vague à d'autres jobs puisque je ne gagne pas assez d'argent en tant que constructeur. Le coût de la vie augmente constamment.
Comme beaucoup d'autres malgaches, il veut d'un leader capable de changer la vie des jeunes. Durant la campagne, les trois principaux candidats, R. Rajomanapiam et ses deux principaux concurrents, Marc Ravalomanan et Ange Radjoel, ont parcouru le pays avec des promesses électorales ambitieuses. Bien que la stabilité politique relative observée depuis les élections de 2013 ait permis une reprise de l'économie, la majorité des 25 millions d'habitants de l'île vivent en dessous du seuil de pauvreté. Clémence Oliga est une jeune fille de 18 ans sans emploi.
J'ai dû arrêter d'aller à l'école pour me trouver un travail à faire parce que mes parents ne pouvaient plus me payer les frais de scolarité.
Le vainqueur de la présidentielle a donc l'obligation de répondre, entre autres, aux préoccupations de la jeunesse avec des actes concrets, indique Joseph Rodolphe Solo.
La vie est souvent plus difficile avec chaque nouveau président, c'est pourquoi je vais voter, espérant que nous aurons non seulement un bon président, mais surtout quelqu'un avec une vision pour les jeunes.
33 autres candidats sont en liste pour cette présidentielle malgache, mais très peu parmi eux ont de l'influence ou encore de l'argent en vue de conquérir l'électorat de l'île sur la base d'un programme crédible capable de sortir le pays de son gouffre économique.
Voilà, c'était donc notre spécial sur les élections à Madagascar. Restez à l'écoute de VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous passons maintenant aux élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Des élections qui ont présenté pas mal de surprises. Tout d'abord, les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants du Congrès au niveau fédéral. Par contre, les républicains gardent leur contrôle du Sénat. Ces élections de mi-mandat étaient considérées comme un référendum sur les deux premières années du président Donald Trump et sur ce que la perte d'une des chambres du Congrès pour les républicains représente pour les deux dernières années de son mandat. Pour nous aider à analyser les résultats de ces élections, écoutons tout d'abord Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Pour la politique intérieure, je crois que ça va changer maintenant parce que Trump a voulu supprimer tous les renseignements difficiles pour lui, surtout sur la question de coopération avec les Russes dans les élections de 2016. Il y a un procureur spécial qui s'appelle Mueller qui est en train de faire une enquête sur la coopération avec les Russes pour changer l'élection de 2016, pour influencer l'élection de 2016. Et c'est possible qu'il va trouver que c'était les Russes qui ont fait gagner Trump. Donc c'est un grand danger pour président Trump et aussi pour sa famille, parce qu'il paraît que sa famille et sa société d'immobilier a accepté de l'argent argent qui était blanchi venant de Russie à travers le Chypre. Donc tout ça peut voir la lumière du jour. Donc ce sera très dangereux pour Trump dans les deux prochaines années s'il veut se représenter pour un deuxième mandat. Ce sera très difficile pour lui.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, et il parlait de l'importance de la victoire des démocrates au niveau de la Chambre des représentants du Congrès, parce que c'est cette Chambre qui a le droit de mener des enquêtes sur les activités du président, et ça pourrait poser des problèmes au chef de l'exécutif américain. Nous rejoignons maintenant le professeur Edgar Colley de l'Université de Monterey en Californie pour son analyse des résultats des élections.
Les démocrates vont se pencher de très près sur évidemment ce qui s'est passé, l'hôtel de Trump à Washington DC, n'est-ce pas, ses impôts et beaucoup d'autres choses qui semblaient être acceptées par les républicains qui contrôlaient bien entendu le Sénat et la Chambre des représentants. Et donc, avec cette nouvelle opposition, il va y avoir, n'est-ce pas, une recherche d'une certaine lumière dans les affaires opaques, ou du moins supposées opaques, du président Trump. Donc, nous aurons à partir de janvier 2019, n'est-ce pas, une opposition réelle qui se voudrait crédible. Donc, qui voudra jouer un rôle dans le contrôle de l'action du président. Donc, je pense que M. Schiff et ses collègues vont fondamentalement, n'est-ce pas, essayer de voir un peu plus clair ce qui a été jusqu'ici caché, si vous voulez utiliser cette expression, par le président.
Le professeur Edgar Colley de l'Université de Monterey en Californie. Vous écoutez une émission spéciale sur les élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Nous passons maintenant au professeur Béchir Djian de l'Université Columbia à New York. Son opinion de ces élections de mi-mandat.
Le président Donald Trump va se retrouver pour la première fois avec une véritable opposition, parce que jusqu'ici, il avait, pendant les deux ans qui viennent de s'écouler, il avait au fond tous les pouvoirs, c'est-à-dire que les deux chambres de parlement, le Sénat, la Chambre des représentants, étaient de la même couleur républicaine et même républicaine trumpiste. On peut compter que le pouvoir judiciaire représenté par la Cour suprême était également tout à fait dans son camp. Et pour la première fois, une des branches du législatif, une branche importante, va se trouver en mesure de contrôler l'action du président Trump et peut-être même de contrôler désormais, a posteriori si on veut, ce qui a déjà eu lieu. On parle déjà de la possibilité de demander à voir sa feuille d'imposition. On n'en est pas encore là, mais voilà le genre de choses qui peuvent compliquer les deux années qui vont suivre.
C'était le professeur Souleyman Béchir Djian de l'Université Columbia à New York. Et nous terminons avec un retour à l'actualité africaine. Au Cameroun, le gouvernement a présenté sa version du kidnapping des élèves de Bamenda dans le nord-ouest anglophone. Selon une source du ministère de l'administration territoriale à Yaoundé, les ravisseurs des enfants ont été contraints d'abandonner les otages dans une église à Bafout, à une vingtaine de kilomètres de Bamenda, lieu où ils avaient été enlevés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.